France Inter, le 18-20.
Jusqu'à 19h, dans quelques instants, notre invité, Yann Arthus-Bertrand, ardent défenseur de l'environnement, photographe de notre planète pour montrer ses beautés fulgurantes et aussi les terribles dégâts que l'homme impose à la Terre. Une planète touchée par l'épidémie de coronavirus, croit-il au monde d'après la pandémie, différent de ce que nous vivions jusqu'à présent? On en parlera avec Yann Arthus-Bertrand. Demain, ce sera la journée mondiale des réfugiés. Le dernier rapport du Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU recense près de 80 millions de personnes réfugiées, demandeurs d'asile ou personnes déracinées dans leur propre pays. Pour commenter ces chiffres, nous interrogerons François Gemène, professeur de sciences politiques et spécialiste des flux migratoires. 18h55, heureux déconfiné, comme chaque vendredi, avec Olivia Ferrandi. Elle nous conseille cette semaine des balades en forêt. 19h20, le téléphone sonne. Quelles vacances pour vos enfants après une année scolaire perturbée par le coronavirus? Comment vont fonctionner les vacances apprenantes, ce dispositif du ministère de l'Éducation prévu cet été pour 1 million d'enfants? Appelez-nous dès maintenant au 01 45 24 7000 et vos mails bien sûr sur franceinter.fr. Voilà le programme de ces 2 heures d'information. À la rédaction en chef, Olivia Ferrandi. La préparation de l'émission, Virginie Rouzic, Pierre de Certaines, Cyril Marchand. La programmation musicale, Muriel Pérez. Et à la réalisation, Michel Bézikian et Clément Berman.
France Inter, le 18-20. Pierre Veille.
Photographe, cinéaste, journaliste, reporter, Yann Arthus-Bertrand est en ligne avec nous. Il se trouve à Paris, au Conseil économique, social et environnemental, où travaille la Convention citoyenne sur le climat. Elle termine ses travaux ce week-end. Elle va remettre ses conclusions à Emmanuel Macron en votant sur 150 propositions. Yann Arthus-Bertrand, bonsoir. Il y a toujours un petit décalage, bien sûr, au bout de la ligne numérique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous réalisez en ce moment un film sur les 150 membres de cette Convention citoyenne sur le climat, des portraits de ces participants, femmes et hommes qui ont été tirés au sort. Que cherchez-vous à découvrir?
Alors d'abord, je suis complètement enthousiaste et vraiment sur ce qui se passe en ce moment. C'est 150 personnes qui ont été prises par hasard quand ils ont reçu un SMS sur leur téléphone et pensaient que c'était une blague, c'était une pub, qui viennent ici parler d'environnement, d'écologie, des gens qui connaissaient pas souvent grand-chose sur ces qui disent qu'ils ont pris vraiment une grande claque en écoutant les rapports du GIEC. Et il se passe quelque chose de formidable ici. D'abord, ils ont tous envie d'en parler, tous ravis d'être là. Ce qui est important, ils ont pris conscience de leur responsabilité, de l'importance qu'ils étaient en train de faire. Et voilà, ils pensent vraiment qu'ils vont changer le monde. Et voilà, je suis avec eux. J'y crois aussi beaucoup parce que vraiment, il se passe quelque chose de formidable ici. Ils veulent, par exemple, qu'il y ait le mot écologie qui soit inscrit dans la définition de la République française. Et donc, ça voudra dire qu'on va changer la Constitution, il faut un référendum. Voilà, il y a beaucoup de choses, une obligation de protéger la vie par la République, ce qui est assez nouveau.
On va y venir.
Il y a une espèce de...
Mais je voulais savoir...
Il y a une espèce d'envie, quoi. C'est assez génial, quoi. Voilà, moi, j'adore. Je suis passionné par tous ces gens à qui je viens de déjeuner et qui ont l'air vraiment, qui sont des gens normaux, sans pression politique, sans cynisme, sans scepticisme, voilà, qui ouvrent leur cœur et qui parlent.
Et dans ce documentaire, c'est intéressant, vraiment. Qu'est-ce que vous cherchez à découvrir? Vous les faites se raconter?
Vous savez, on a fait le film Woman qui ressort bientôt. On a une grande habitude de faire des interviews assez longues où on écoute le cœur des gens. Et ce qui m'intéresse, c'est ce que ça a vraiment changé en eux, profondément. Et en fin de compte, c'est parce que tous ces gens aujourd'hui sont devenus des écolos, quoi. Ils en parlent autour d'eux, ils en parlent dans le travail. Tout à l'heure, je parlais avec une jeune aide-soignante qui venait en voiture tous les jours. Elle me dit, c'est vrai que c'est compliqué, je vais en voiture, faut que je trouve des moyens pour venir faire des voyages, coopératifs avec les gens autour de moi. Non, il y a une espèce de réflexion. Et ce qui m'intéresse, c'est que j'ai l'impression que c'est au fond de leur conscience, que c'est pas des mots, et que tous ces gens sont prêts à faire un effort, à réfléchir. Vous savez, quand on vous explique que les scientifiques parlent de la sixième extinction, quelqu'un qui m'en a parlé tout à l'heure, il me dit, la sixième extinction, c'est la mort de mes petits enfants à la fin du siècle. Je peux pas laisser passer ça. Monsieur qui était retraité, qui parlait justement, qui défend les 110 km sur l'autoroute, donc qui est vraiment un objectif quand même assez ambitieux. Et je les sentais que c'est touché, quoi. Vraiment, c'est plus que touché dans leur corps et dans leur conscience. Et ça, c'est intéressant.
Yann Arthus-Bertrand, on connaît les 150 propositions soumises à la Convention citoyenne. Lesquelles, selon vous, sont indispensables, prioritaires?
Bon, je vais parler à défiler. Je crois que elles sont toutes intéressantes et toutes. Alors bien sûr, il y en a le fait de travailler 28 heures par semaine. Parce que je me posais la question. Elle me disait oui, mais l'écologie, c'est une écologie humaniste. Ils me disaient, ils ont raison complètement. Et il faut donner du travail à tout le monde. Vont partager le travail. Donc il y a beaucoup d'utopie un peu là-dedans. Mais peut-être que l'utopie est peut-être une vérité prématurée quelque part. Donc voilà. Bah, surtout, c'est la rénovation, la viande, le tout ce qu'on dit depuis toujours, quoi. Enfin, qu'on réduire notre obligation de consommer des énergies fossiles en permanence. Donc il y a la tyrannie de la croissance, quoi. Ils sont tous, je ne vais pas vous les énumérer tous, mais c'est tous, en fin de compte, tout ce qu'ils disent, c'est ce qu'on dit depuis toujours et depuis très longtemps. Voilà.
C'est un projet de société?
Ah oui, je pense que c'est même plus que ça. Je pense que c'est un changement de civilisation. Aujourd'hui, il y a une civilisation qui est complètement basée sur la croissance. On dépend tous de la croissance. C'est la croissance qui nous fait tous vivre. Donc l'ennemi, c'est nous, en fin de compte, la façon de vivre. Et je pense qu'aujourd'hui, devant ces chiffres qui font peur quand même, hein, parce que quand on n'est pas au courant, si par exemple on vous explique qu'aujourd'hui, en 2050, chaque Français devra émettre 2 tonnes de carbone et qu'aujourd'hui on en émet 12, vous voyez bien que le chemin qui est quand même très très loin à faire. Et on parle de la vie, quoi. On parle de la vie sur Terre, on parle pas d'autre chose que ça. Mmh. Et on sait bien aujourd'hui qu'on a vu avec le Covid quelle est l'importance de la vie sur Terre. La vie, c'est peut-être le plus beau cadeau précieux qu'on a, et la vie de ceux qu'on aime. Et si vous voulez, on revient en fin de compte à ces choses essentielles de la vie. Et j'ai beaucoup parlé tout à l'heure avec eux, ça m'intéressait, c'est ce qui m'intéresse, c'est d'avoir comment ces gens qui ne s'intéressaient pas à l'écologie, même que vous voyez climato-sceptiques, sortent encore plus enthousiasme, plus que moi quelque part, quoi. Vous rendez compte, vous voyez ce qui se passe? Et je dis oui, je sais, ça fait 20 ans qu'on en parle. Et bravo à Cyril Dion et à Marion Cotillard d'avoir défendu le projet auprès de Macron, parce que c'est dangereux, hein, parce que si derrière le référendum n'a pas lieu.
Alors
derrière,
justement, oui. Que doit faire Emmanuel Macron confronté aux conclusions de cette convention citoyenne sur le climat?
Oh, écoutez, il faut être modeste là-dessus. Je suis pas président de la République et je pense qu'il va gérer toutes les pressions qu'il y a de tous les côtés. Je pense qu'il essaiera de faire le maximum. Voilà, moi, vous imaginez bien ma position. Ma position, c'est bien sûr que toutes ces propositions soient vraiment étudiées sérieusement.
Mais il faut un référendum
derrière. Ah, certainement, je pense que le référendum est une bonne idée parce que ça va inscrire dans le marbre les choses qu'on doit faire quelque part. Mais ce qui m'a étonné surtout, c'est que tous ces Français moyens, voilà, sont devenus d'ardents défenseurs de l'environnement, ce qui est assez incroyable. Il y a vraiment tous les univers. Ça, c'est vraiment une idée formidable. Et je pense que c'est la démocratie, c'est ça, en fin de compte. C'est donner du pouvoir à des gens sans avoir la pression des électeurs. Vous voyez, ils ont la pression, simplement la pression de leur conscience. Alors qu'un électeur, bien sûr, il doit rendre service. Il a la vision électorale, toujours.
Yann Arthus-Bertrand, il y a une mesure portée par cette convention citoyenne. Elle concerne le transport aérien, interdiction de vol intérieur s'il y a une alternative en moins de 4 heures, interdiction de construire de nouveaux aéroports et l'extension des aéroports existants est aussi interdite, augmenter fortement l'éco-contribution sur les billets d'avion. Vous approuvez?
Attendez, alors... Moi, j'ai pris l'avion toute ma vie.
Voilà, justement.
Donc, je suis vraiment la dernière personne, voilà. Mais moi, j'ai arrêté de prendre l'avion depuis 6 mois. C'est la petite Greta Thunberg, en lisant son bouquin, qui est assez radical. Mais c'est vrai que l'avion émet énormément de carbone. Imaginez que si on doit, en 2050, émettre chaque Français 2 tonnes, un aller-retour New York, c'est pratiquement 2 tonnes. Donc, ça veut dire qu'en aller-retour avion, on aura dépensé le carbone qu'on aura le droit d'utiliser. Voilà. Donc, c'est compliqué. Maintenant, il y a une économie qui est autour de ça, c'est très difficile. Vous savez, c'est une décroissance qu'on a forcément avec le Covid. On a 90 millions de touristes qui vont pas venir en France. Donc c'est une décroissance obligée, imposée, qui va pas être rigolo pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui vont souffrir. Donc c'est pas du tout la décroissance dont je rêve. J'ai une décroissance préparée à l'avance. Et je pense qu'on ira forcément vers une décroissance comme ça. Je pense que dans 30... À moins qu'on trouve des systèmes. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'avion propre. On ne pourra jamais faire voler des avions avec du carburant.
Yann Arthus-Bertrand.
Ni avec l'électricité.
Ouais. Oui. Pardonnez-moi de me faire l'avocat du diable. Sans avion, comment découvrir toutes les richesses, les beautés de notre terre? Par exemple, si on est français, qu'on veut parcourir le monde et voir toutes ces beautés, il faut l'avion.
Mais bien sûr, mais je pense qu'on aura toujours le droit
alors
de prendre
fini.
L'avion. On
ne
va jamais empêcher les gens de prendre de l'avion. Non, non, je pense qu'on continuera à prendre l'avion. Moi, je ne pense pas qu'on ira passer un week-end à Marrakech. Je pense qu'on fera un grand voyage par an. Vous savez, c'est une question d'éthique et de morale. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire et qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire? En fin de compte, on vit un peu dans ce que j'appelle, moi, la banalité du mal. C'est-à-dire au quotidien, bon, on mange la viande industrielle, c'est pas grave. On connaît les abattoirs, on sait comment ça se passe, on sait que la viande industrielle a un énorme impact sur le changement climatique, sans parler de la souffrance animale. On prend l'avion en disant que c'est pas bien, on prend sa voiture quand alors qu'on pourrait peut-être... Cette espèce de banalité, peut-être qu'aujourd'hui, il faut revenir à une banalité du bien et d'y réfléchir. Moi, c'est facile pour moi d'en parler, j'ai mon âge, j'ai beaucoup voyagé, donc je veux surtout dire aux gens, si vous voulez prendre l'avion, prenez-le, mais sachez quel est votre impact. Voilà, vous le prenez en âme et conscience, vous le prenez pas n'importe comment, vous réfléchissez avant de le prendre, c'est ça qui est important. Il y a des valeurs essentielles qui sont l'éthique et la morale, des choses, la conscience. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Est-ce que j'ai pas le droit de faire? Ben, on peut peut-être y réfléchir. Mais bien sûr qu'il faut continuer à prendre l'avion si c'est important. Si on veut aller voir sa famille, si on veut voir son petit-fils qui est né en Australie. Bien sûr qu'il faut y aller. Faut pas exagérer. Mais peut-être le prendre en y réfléchissant. Ne pas le faire n'importe comment. Et je pense qu'en effet, les trains, bien sûr, on a privilégié le transport en camion, privilégié l'avion et qu'aujourd'hui, il faut réfléchir à rouvrir peut-être les lignes de ferroviaire qui étaient fermé, faire que le billet de train soit beaucoup moins cher. L'autre jour, j'étais dans le sud, dans ma maison de Port-Cros, où j'ai vu que prendre le train, ça coûtait deux fois plus cher que prendre l'avion. C'est pas normal. C'est beaucoup plus compliqué, mais bon, voilà. C'est vraiment un effort à faire. C'est plus facile de prendre l'avion, c'est évident. Voilà.
Yann Arthus Bertrand.
Voilà, c'est à vous de décider de quel côté qu'est-ce que vous voulez faire, du bien, vous voulez faire le bien ou faire le mal pour la vie autour de. C'est compliqué, hein, c'est compliqué. Je veux surtout pas culpabiliser les gens et chacun le fait en son âme et conscience.
On revient sur
moi, j'ai trop voyagé pour me permettre de culpabiliser les autres. Voilà.
On revient sur ce confinement que nous avons vécu. Est-ce que vous auriez aimé photographier des lieux de notre planète confinée, des photos aériennes de la Terre confinée?
Ah ben, j'étais très très frustré de pas faire en drone Paris, ma ville, par exemple. Il se trouve que j'ai été malade, donc j'ai pas pu y aller. Après, les gens avec qui je travaillais, eux aussi, ont été malades, donc j'ai pas pu le faire. Très frustré de faire des photos qu'on refera jamais, quoi. Mm-hmm. Vous imaginez que le monde entier s'est arrêté, que toutes ces villes... Moi, je vis à la campagne et je ne pourrais pas vivre en ville, mais toutes ces villes sans voiture, quoi, ces villes qui, enfin, reviennent aux piétons, les gens qui y habitent, quoi, d'une façon sans pollution. Vous imaginez que vous connaissez le problème de ces villes avec les microparticules. Quand même, c'est scandaleux qu'on arrive. On ne peut pas empêcher les gens de rouler avec des camions diesel ou des voitures diesel dans les villes, alors que ça tue des gens. On parle de 40 000 morts par an en France, quand même. Bon, passons là-dessus. Mais ces images étaient extraordinaires. Et je suis en train de faire un film qui s'appelle Legacy, hein, qui veut dire l'héritage, un peu sur tout ce que ma génération laisse aux autres. Et j'ai demandé de récupérer des images, justement, de toutes ces villes pratiquement abandonnées. Quoi. C'est assez extraordinaire. Et ce qui prouve que dans ce moment incroyable, on peut tout s'y arrêter. Ce qui est arrivé là est unique dans l'histoire de l'humanité. Vous imaginez que tout le monde entier s'est arrêté. C'est incroyable. Donc, bien sûr, il y aura des choses qu'il va falloir le payer. Il y a beaucoup de gens qui vont le payer d'une façon pas très rigolote, donc ces gens-là, c'est pas formidable pour eux, mais quelque part, ça peut se faire. Et donc, parlant d'écologie, d'environnement, d'arrêter les avions, d'arrêter les voitures, d'écouter les oiseaux, ça peut se faire, voilà.
Mais on connaît les conséquences économiques catastrophiques.
Voilà, exactement. Catastrophique, c'est vrai.
Mais qu'avez-vous pensé de ce confinement? Pour vous, c'est une erreur, une bonne chose, un mal nécessaire, inévitable?
Cher monsieur, je ne suis pas un futurologue, je ne suis pas scientifique. J'ai écouté ce que les gens, les scientifiques, les hommes politiques nous disaient de faire. Et voilà, j'aurais pas aimé à leur place. Et je pense qu'il faut arrêter de critiquer. Il faut essayer de... Ça n'a pas été très facile pour eux. Et moi, j'ai suivi les instructions bêtement, voilà. Mais moi, je vivais à la campagne... Et avec mes petits enfants j'ai vu la nature, j'ai vu les arbres pour la première fois de ma vie. J'ai passé 2 mois où j'ai vu les feuilles pousser tous les jours, ce qui était assez incroyable. Mais j'ai pensé à tous ces gens qui se battaient pour sauver les autres, puis les gens surtout qui travaillaient pour nous, quoi, qui nous livraient, tous les gens qui... Il y avait quand même beaucoup de gens qui ont travaillé. Moi, j'ai fait un confinement de rêve, donc j'en ai presque honte. Voilà.
Cette épidémie de
beaucoup de films.
Oui,
allez-y.
Cette épidémie de coronavirus, elle a sa source dans le commerce interdit pourtant d'un animal sauvage, le pangolin, et cela en Chine. Le gouvernement chinois, selon vous, est-il complice de ces trafics d'animaux sauvages?
Non, mais alors je vais vous dire, je vais faire quelque chose de très dur et je vais être assez violent. En tant qu'écolo, ça fait vraiment 30 ans que les Chinois nous font chier. Véritablement, ça fait 30 ans que nous, on se bat pour la corne de rhinocéros, les défenses des éléphants, des éléphants, les ailerons des requins. On est vraiment les Chinois qui pourtant ont signé les accords internationaux sur le trafic des animaux sauvages, ne le respectaient pas. Et c'est un pays où on peut respecter ces lois. C'est pas normal quand des milliers de pangolins africains arrivent en Chine pour être consommés, hein, congelés. C'est tout à fait anormal. En Afrique, il y a un problème de survie sur le braconnage. Il y a énormément de corruption. Voilà. Il y a vraiment le braconnier qui va prendre des pangolins dans la forêt. Voilà, il sait pas ça. C'est vraiment un problème de survie pour lui. On peut pas lui reprocher. Par contre, tous ces trafiquants chinois, tous ces gens qui acceptent que c'est, vous savez, sur les marchés chinois, c'est pas ce que vous avez déjà été, mais on a l'impression que tous les animaux en voie de disparition sont là, on les retrouve dans les marmites des Chinois. Vraiment, il y avait, et je pense qu'aujourd'hui, ils ont décidé qu'il n'y aurait plus de trafic d'animaux sauvages. J'espère qu'ils vont le respecter. Vous savez qu'on, les éléphants, par exemple, il n'en reste que 350 000, qu'on en perd 10 000, on en perd 10% tous les ans, et qu'il y a des gens qui parlent de la disparition inévitable des éléphants. Et je pense que les Chinois et les Vietnamiens ont vraiment dans leurs mains l'avenir des éléphants. Et je parle même pas des rhinocéros, où vraiment, c'est une honte, quoi. C'est un scandale.
Mais est-ce que l'origine de cet
trafic?
Oui. L'origine de cette épidémie.
Alors, on n'en sait rien si c'est l'origine ou pas.
Oui.
Moi, j'en sais rien.
Est-ce uniquement, selon vous, un marché insalubre en Chine?
Non, mais je pense que les Chinois ne respectent pas les accords étrangers. Les accords sur la vente des animaux sauvages, c'est interdit. On n'a pas le droit aujourd'hui de trafic. Le trafic des animaux sauvages est interdit. Les Chinois ne le respectaient pas, voilà. Et puis on dépend tellement du marché chinois, de l'économie chinoise, qu'on n'ose rien dire. On est très focus là-dessus. Voilà, et Dieu sait que les écolos ont vraiment fait des manifestations. Voilà, on est tous à... Enfin, moi, j'espère que peut-être que par rebond, cette histoire du pangolin va peut-être sauver le rhinocéros, et j'espère bien, parce que c'est vraiment des animaux qui sont véritablement en voie de disparition, et beaucoup d'autres. Je parle pas des ailerons de requins ou d'autres animaux. Voilà.
Yann Arthus Bertrand.
Vous êtes dans les marchés.
Ouais. On se chevauche un petit peu, mais on ne se voit pas. Vous êtes au bout d'une ligne numérique. C'est pas très facile pour mener une interview, mais on y arrive. Vous avez signé le 6 mai cet appel de 200 artistes et scientifiques. Non à un retour à la normale avec Madonna, Robert De Niro, Penélope Cruz, Juliette Binoche, Angèle. Et dans ce texte, il est écrit: l'extinction massive de la vie sur Terre ne fait plus de doute. Vous êtes un collapsologue?
Ben vous savez, il y a quand même 15 000 scientifiques qui ont signé un espèce de tribune il y a un an et demi qui parle de la sixième extinction. La sixième extinction, ça veut dire quoi? C'est l'arrêt de la vie sur Terre telle qu'elle est, quoi. C'est quand même quelque chose d'inouï d'entendre parler de ça. C'est très nouveau. Je suis un collapsologue. Je crois aux scientifiques, je crois à la science. Si les sciences, les scientifiques, nous, vous savez, on parle aujourd'hui de la fin en 2100, on parle des réchauffements de 4 à 5 degrés. Et c'est les scientifiques français qui le disent. Ça veut dire qu'on sera tous grillés. Ça veut dire qu'on ne pourra plus vivre sur la Terre. C'est quelque chose d'inimaginable. Ça nous dépasse, mais on vit dans une espèce de déni collectif où on voit ces chiffres, on les voit à la télévision, à la radio, on en parle tout le temps, mais on veut pas y croire. On veut pas croire ce qu'on sait. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut que peut-être qu'on se réveille un petit peu, et que c'est pas d'être un collapsologue, c'est de voir les chiffres. Vous savez, la question qu'on vous pose tout de suite, est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste? Bien sûr qu'on est tous pessimistes quand on regarde les chiffres. Mais on est quand même optimiste qu'on est en vie, et je ne peux pas croire, mais du fond de moi, que l'homme n'est pas capable de réagir. Et ça, c'est un chemin de civilisation, et c'est ce que peut-être est en train d'essayer de faire ces 150 Français anonymes qui travaillent comme des fous sur... Voilà. Et on peut être assez fier qu'en France, on ait réussi à faire cette convention citoyenne qui n'existe pas dans beaucoup d'endroits au monde. Voilà.
Alors, la défense de l'environnement, c'est aussi le recyclage pour éviter le gaspillage, c'est l'économie circulaire. Toutes les structures qui font cela sont restées fermées pendant le confinement. Là, elles reprennent leurs activités et craignent d'être les oubliés de Bercy dans l'attribution des aides à la relance économique. Yann Arthus Bertrand va écouter ensemble ce reportage de Sandy Dauphin dans une collecterie à Montreuil.
Là, c'est
vrai, on a vaisselle, poussette, chapeau, valise, on trouve de tout dans cet entrepôt labyrinthe. La collecterie de Montreuil récupère, trie, répare, vend, donne des tonnes d'objets qui auraient fini à la poubelle, surtout en cette période de déconfinement. Sa directrice Séverine Bellec.
Les gens sont au rendez-vous, ils ont surtout beaucoup trié pendant ces deux mois. Ils apportent beaucoup de livres, beaucoup de jouets, ils ont trié les chambres des enfants, les placards. En général, nous, un jour d'apport, c'est moins d'une tonne. Là, c'est 3 à 4 tonnes.
Et là, dans
Mais 2 mois de fermeture pèsent lourd sur les finances de cette structure, également chantier d'insertion professionnelle.
On est 30 salariés. La trésorerie est très tendue, hein, comme dans beaucoup de ressourceries. Du coup, on a fait un prêt garanti par l'État pour pouvoir maintenir les salaires. Je ne sais pas si on pourra le rembourser. On ne sait pas si on sera encore là l'année prochaine.
Or, le réseau national des ressourceries s'estime oublié par Bercy, son vice-président Martin Bobel.
L'ADEME, qui est l'agence de l'environnement de l'État, préparer une mesure d'urgence pour surtout nous permettre de passer la crise correctement. Mais Bercy, c'est-à-dire le ministère des Finances, a bloqué cette aide. Quand on écoute le discours d'Emmanuel Macron dimanche dernier, qui fait appel à une relance sociale et solidaire, on attend des actes.
Au ministère de la Transition écologique, on affirme au contraire que cet arbitrage, 10 millions d'euros, n'a pas été tranché.
Voilà, reportage Sandy Dauphin, il y a les paroles et on attend les actes. Yann Arthus-Bertrand, vous restez en ligne avec nous. Autre invité dans cette émission jusqu'à 19h, François Gemène, qui est chercheur en sciences politiques, rattaché à l'université de Liège et enseignant à Sciences Po Paris, spécialiste des flux migratoires. Bonsoir François Gemène.
Bonsoir.
Demain, ce sera la journée mondiale des réfugiés. Le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés a révélé que fin 2019, près de 80 millions de personnes étaient des réfugiés, des demandeurs d'asile ou des personnes déracinées dans leur propre pays. Est-ce que cela signifie que sur la planète, il y a désormais beaucoup plus de conflits, plus de violences ?
Ça veut dire surtout qu'on ne parvient pas à trouver des solutions pour ceux qui sont déplacés. Ce qu'il faut voir, c'est que ce nombre a quasiment doublé depuis 2010. Ils étaient 40 millions de déplacés en 2010.
Nous avons un problème de liaison.
5 millions ont pu être...
François Gemène, on a eu une petite coupure de ligne. Reprenez votre phrase
et
on vous écoute attentivement. Allez-y.
Je voulais dire simplement... Que le problème, c'est que nous ne parvenons pas à trouver de solution pour eux. Le nombre de déplacés a quasiment doublé depuis 2010. Ils étaient environ 40 millions fin 2010. Et depuis lors, seuls 5 millions sont rentrés chez eux. Et donc, ça veut dire que nous ne parvenons pas à trouver de solution et que par contre, les motifs de déplacement s'accumulent. Il y a évidemment les guerres et les violences. Il y a surtout les catastrophes naturelles qui aujourd'hui déplacent 3 fois plus de personnes que les guerres et les violences chaque année.
Quels sont les lieux, les pays sur la planète où le flux des réfugiés ne cesse de progresser ?
Alors, très clairement, vu de France ou vu d'Europe, on a l'impression qu'il y a beaucoup de réfugiés en Europe, mais la réalité, c'est que 85% des réfugiés et des déplacés sont hébergés dans des pays en développement, et même 27% parmi les pays les moins avancés, c'est-à-dire les pays les plus pauvres de la planète. 80% d'entre eux sont exposés à des risques de famine et d'insécurité alimentaire, donc ça veut dire qu'ils sont essentiellement déplacés dans les pays du Sud, souvent dans un pays voisin du leur.
Quelle est la situation autour de la Syrie actuellement ?
C'est une situation malheureusement qui reste semblable à ce qu'elle était l'année dernière et à ce qu'elle était il y a déjà 5 ans. Il y a aujourd'hui plus de la moitié de la population syrienne qui a été déplacée, soit dans les pays voisins, soit à l'intérieur de la Syrie. Il faut rappeler qu'à peu près la moitié des déplacés syriens sont toujours coincés à l'intérieur de la Syrie. Et la Turquie reste le pays qui accueille le plus de réfugiés au monde, avec 3 600 000 réfugiés.
En Amérique latine, il y a toujours un flot de réfugiés venant du Venezuela, où la situation économique est désastreuse.
Tout à fait, la grande nouveauté, si je peux m'exprimer ainsi, c'est qu'effectivement, il y a environ 5 millions de réfugiés vénézuéliens qui ont trouvé asile dans la région. Et là aussi, pour eux, il n'y a pas de solution en vue, et donc il est à craindre qu'ils restent déplacés pendant plusieurs années.
Il y a quelques jours, un bateau transportant des migrants au large de la Tunisie a sombré. Bilan 52 morts. Les bateaux humanitaires vont reprendre leur mission ce week-end en Méditerranée. La crise du Covid-19, François Gemène, a-t-elle freiné les arrivées de migrants en Europe ?
Oui, elle les a freinés d'une certaine manière, y compris parce que les passeurs n'affrétaient plus de bateaux et parce que effectivement l'activité en Méditerranée s'est ralentie. Mais il est à craindre cet été qu'elle reprenne à nouveau. Et malheureusement, les chiffres sont toujours aussi tragiques. En mars de cette année, on a passé le cap du 20 millième mort en Méditerranée depuis ce qu'on appelle la crise des réfugiés. Et donc malheureusement, les morts continuent en Méditerranée, un peu dans la différence générale désormais.
La récession économique due au Covid-19, cette récession que nous vivons en Europe, est-ce qu'elle va chambouler, selon vous, les migrations venues d'Afrique ?
Il y a un grand élément qui va se transformer, je crois, c'est que les remises d'épargne, c'est-à-dire la partie du salaire que les migrants renvoyaient chez eux vers leur famille, risque de diminuer. Or, ces remises d'épargne, pour beaucoup, c'était une sorte de bouée de sauvetage. C'était un complément de revenu absolument indispensable. Et on sait que beaucoup de migrants en Europe et partout dans le monde ont vu leur revenu drastiquement baisser. Et donc, on s'attend malheureusement à ce que les remises d'épargne baissent beaucoup en 2020, ce qui va placer énormément de familles, mais aussi de pays. Il y a des pays qui dépendent de ces remises d'épargne. Le Maroc, par exemple, a 10% de son PIB qui dépend de ces remises d'épargne. Et donc, on s'attend à de très graves difficultés économiques pour ces familles. Je pense que ça sera la principale conséquence, effectivement, de la crise du Covid pour les migrants.
François Gemelle, merci beaucoup. On marque une pause musicale dans cette émission sur le dernier CD de Jean-Louis Aubert, avec 22 chansons. Son titre, c'est Refuge. Il y a aussi loin.
Aussi loin que voit ton cœur, et aussi près que soit le mien, aussi vrai qu'on est âme sœur sur le tarmac des vauriens, aussi fort que soit l'amour sur ces chemins aller-retour, aussi faible que soit la force.
Jean-Louis Aubert.
France Inter. Le 18-20.
Et nos invités jusqu'à 19h, François Gemelle, professeur de sciences politiques, spécialiste de l'environnement et des flux migratoires, et Yann Arthus-Bertrand. Yann Arthus-Bertrand, vous vouliez réagir à ces chiffres concernant les réfugiés. Près de 80 millions de personnes étaient des réfugiés, des demandeurs d'asile ou des personnes déracinées dans leur propre pays, sont les chiffres de l'ONU fin 2019.
Allô ?
Oui, Yann Arthus-Bertrand, vous m'entendez ?
Ah oui, j'ai été coupé. Non, ce que je voulais dire, c'est que Moi, j'ai un petit orphelinat à Brazzaville, et je m'aperçois qu'une chose, c'est que tous les adolescents de ces pays-là sont tous connectés par Viber, par WhatsApp, sur Internet, donc ils savent quel est le salaire en France, ils savent ce paradis dans lequel on vit, regarde des films. Mais quand vous vivez dans un pays où il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de services de santé, il n'y a pas d'éducation, vous n'avez qu'une envie, c'est de partir. Et souvent, tous ces réfugiés, vous voyez dans la rue, qui travaillent, c'est souvent des gens qui, derrière ce travail, ils nourrissent des familles entières. Ils risquent leur vie pour traverser la Méditerranée, souvent pour nourrir leur famille. Et ça, je m'aperçois qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe dans ce pays, nous on vit dans une espèce de paradis, on est riche, on a des lois sociales formidables, et tous ces gens-là, ils rêvent de la vie qu'on a, et c'est pour ça qu'ils veulent venir chez nous. Et je pense qu'on ne pourra pas les empêcher de venir, que c'est l'histoire du monde, on va toujours chercher ailleurs une meilleure vie pour soi et sa famille. Je pense que la grande crise migratoire n'a pas encore commencé. Je ne sais pas comment on pourra l'arrêter. Voilà, cette envie de vivre mieux, quoi, de nourrir sa famille et d'avoir du travail.
François Gemène, je rappelle, vous êtes politologue, spécialiste des flux migratoires et aussi de l'environnement. Alors face à ces conclusions de la Convention citoyenne sur le climat, quelle est votre réaction? Pensez-vous que là, c'est un grand moment qui peut apporter de véritables changements?
Je pense que c'est effectivement une démonstration tout à fait intéressante et qu'effectivement, c'est vraiment assez intéressant de voir comment 150 citoyens tirés au sort se sont appropriés les sujets, et j'ai lu les propositions. C'est un travail très très sérieux, très fouillé qui a été fait. Maintenant, la grande question, c'est de savoir comment ces propositions ou certaines d'entre elles vont pouvoir être adoptées. Moi, je suis un peu inquiet avec cette idée qu'on fasse passer certaines au référendum. On sait que les référendums sont souvent des plébiscites pour ou contre le gouvernement. On sait que le gouvernement est très impopulaire. Et donc, j'ai envie de dire que c'est un peu se tirer une balle dans le pied, à mon avis, que d'essayer de faire passer certaines de ces propositions au référendum. De surcroît, si jamais la population venait à refuser des propositions qui sont issues d'un panel représentatif de la population, je crains que ça ne décrédibilise l'ensemble des travaux et quelque part que la représentativité de la Convention soit mise en cause. Et je suis assez interpellé par le consensus apparent qui semble régner parmi les 150. Yann Arthus Bertrand fait un film sur les 150. J'aurais préféré qu'il fasse un film sur les 87 pour et les 63 contre. Ce sont des mesures importantes, et si on veut les porter, je pense, véritablement dans le débat public, il faut qu'il y ait débat, il faut qu'il y ait des lignes de fracture, et il faut que une majorité puisse se dessiner. Donc, moi, je suis parfois un peu inquiet, effectivement, de voir cette logique consensuelle, comme si, finalement, les 150 étaient un corps homogène, alors qu'ils sont représentatifs de la société française et que la société est diverse et, forcément, n'aura pas le même avis sur des mesures aussi tranchées que celles qui sont proposées.
Sur tous ces points, réponse de Yann Arthus Bertrand, oui, qui est en plein tournage avec ses participants à la Convention citoyenne sur le climat.
Alors d'abord, il n'y a pas un consensus complet. J'ai assisté où il y a là sur la limite de passage, de limiter la vitesse sur les autoroutes, il y a environ 60-40. Donc tout le monde n'est pas d'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est vrai qu'il y a un consensus sur les zones importantes. Pourquoi? Pourquoi il y a un consensus? Ils ont été informés. Il y a eu de l'information. Si jamais on arrivait à informer tous les 100% de la population française, comme ils ont été informés eux, eh bien le monde peut changer. C'est ça qui est intéressant. Il y a un consensus parce que les gens ont compris ce qui est en train d'arriver. Alors voilà, ce qu'il faut, c'est absolument essayer d'éduquer. S'il y a un référendum, il y aura un énorme travail d'information qu'on devra tous faire. Sinon, ça marchera pas, je suis bien d'accord avec vous. Mais que le gouvernement prenne un risque parce qu'il est impopulaire, c'est là où le courage, et là où le courage d'un homme politique, quand il sait que c'est pas populaire ce qu'il va demander, ce qu'il faut faire, mais qu'il le fait quand même parce qu'il pense que c'est pour le bien de la nation. Et c'est là où un homme politique devient grand. Et c'est ça qui est intéressant. J'espère que Macron va le comprendre. Et c'est ça qui est formidable dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui.
Mais que répondez-vous à ceux qui disent cette convention citoyenne sur le climat, ces propositions, c'est très bien, mais il n'y a que des interdictions. Interdiction des écrans publicitaires dans l'espace public et les transports publics et pour des produits à fort bilan carbone. Interdiction des semences OGM. Interdiction dès 2025 de la vente de véhicules les plus polluants, interdiction des terrasses chauffées ou de l'éclairage des magasins la nuit, fin de la vitesse à 130 sur autoroute, on passe à 110. C'est pas très drôle comme projet. Que des interdits.
Non, mais
Yann Arthus-Bertrand.
Ça dépend dans quel sens on le prend. Mais aujourd'hui, d'amener du bio dans les écoles et d'imposer du bio dans les cantines scolaires, c'est pas une interdiction, c'est du plus. C'est plus de travail pour les gens qui travaillent à la main. Vous savez qu'aujourd'hui, 50% de la nourriture qu'on mange en France est importée. 50% de nourriture. Et croyez pas qu'on peut inverser ça. C'est absolument incroyable. On est dans un des pays les plus agricoles au monde. 55% de notre territoire est un territoire agricole. Et on importe 50% de nourriture. Ça devient ridicule. Je pense que cette convention, peut-être avec leur bon sens tout simple, de gens qui ne sont pas des technocrates, vous savez, bien sûr que tout n'est pas parfait, mais moi j'essaye de voir ce qui est positif là-dedans. Et je peux vous dire qu'il règne une atmosphère extrêmement positive en ce moment de cette convention. J'aimerais qu'il y ait la même atmosphère à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Voilà, j'aimerais vraiment que ça se passe comme ça.
François Gémen est-il toujours en ligne avec nous? Apparemment, il n'est plus avec nous. On va retrouver Yann Arthus-Bertrand. Je voudrais qu'on parle de vos projets actuels. Il y a donc ces portraits que vous êtes en train de réaliser à la Convention citoyenne. Portraits encore, mais de femmes, c'est Woman, ce film que vous avez réalisé avec Anastasia Mikova, ce film programmé début mars. Et bien sûr, il y a eu le confinement et tout a été annulé. Il ressortira le 13 juillet et sera disponible en VOD. Comment capter en photographiant l'émotion, les sentiments dans un regard? Comment faites-vous?
Ben, si vous voulez, d'abord, ce sont des interviews assez longues. C'est un peu comme aller chez un psy, vous voyez, où on pose les gens sur le sens de la vie, sur qu'est-ce que c'est qu'être une femme dans ce monde d'hommes. Et je peux vous dire que ce film, qu'on a fait avec Anastasia Mikova, est un film qui a vraiment changé. Alors, peut-être que j'étais un vieux con macho, que j'avais pas tout compris. Mais vraiment, mon regard sur les femmes. Je pense que c'est beaucoup plus difficile d'être une femme que d'être un homme dans ce monde. Et qu'il y a énormément d'épreuves à passer. Et on parle pas que de la violence. On parle aussi de la beauté, du travail, de la joie, de la maternité. Voilà, c'est un film que j'adore et qui est un film assez intimiste sur... Et je pense que c'est un film qu'il faut voir. Si vous êtes une femme, vous emmenez votre mari. En tout cas, moi, je peux vous dire que ça m'a profondément changé et j'ai une vision différente sur ma mère, sur ma femme, sur mes sœurs. J'en suis pas fier, mais en tout cas, voilà, ça m'a grandi un petit peu la chance de faire ces films.
Oui,
voilà. Et puis aussi, on ouvre une exposition à la Villette que va ouvrir dans 3 jours, qui s'appelle Legacy, qui est une espèce d'exposition immersive. Alors, il n'y a pas que mes photos, il y a aussi sur la Calas, sur l'opéra, et c'est vraiment une exposition sur la beauté du monde. Donc moi, ce que j'ai fait, il y a 5 capsules formidables, c'est une pièce de 40 mètres de long sur 20 mètres de large. On va présenter, moi en tout cas, je présente mes archives, mes plus belles images du monde, avec de la musique, sans commentaire, avec la musique de mon ami Armand Amar, et sur le sol s'inscrit les chiffres sur la terre qui sont beaucoup moins drôles. C'est une exposition qu'on a appelée Legacy, le courage de la vérité, qu'il faut voir la vérité en face.
Je rappelle qu'il y a ce film Woman, donc qui va sortir sur les écrans le 13 juillet. C'est aussi un livre magnifique aux éditions de La Martinière. Et bon, c'est quand même 2 ans de travail, 2000 interviews, je crois, 85 tournages dans 50 pays. Un mot encore, oui, Yann Arthus-Bertrand, toujours actif, résistant, climatique, on peut le dire. Votre fondation Good Planet a rouvert ses portes il y a une semaine, je crois, au cœur du Bois de Boulogne.
Important.
C'est le domaine le domaine de Longchamp. Vos projets là-bas?
C'est formidable ce qu'on a réussi à faire. C'est pas moi, c'est toute mon équipe. Moi, je suis un bénévole là-dedans, mais on a fait un escape game sur le carbone et une école de cuisine. On parle des réfugiés. On a importé, par exemple, des bateaux de réfugiés qui arrivaient de Lampedusa. Et on parle parce que vous savez, je pense que l'écologie, elle doit être humaniste. C'est une écologie, elle doit aimer, bien sûr, parler de nature, d'animaux, d'air pur, mais aussi parler des gens. Et on parle aussi bien nous des réfugiés que des abeilles. C'est gratuit, c'est ouvert à tous. Et cette année, à la Fondation, on a fait un truc formidable. On a lancé des posters sur les ODD. ODD, c'est Objectifs de Développement Durable, qui sont disponibles gratuitement pour toutes les écoles de France, peuvent recevoir 17 posters par le Canopée, c'est avec le Centre d'éducation de l'Éducation nationale, ou alors par la Fondation. Et si vous venez à la Fondation Louis ce week-end, vous pouvez repartir avec ce kit des posters. Et j'insiste, la Fondation est gratuite, c'est très important pour nous.
C'est noté.
Vos enfants, et vous sortirez un petit...
Yann Arthus-Bertrand, c'est l'heure maintenant, il ne faut pas être en retard, de notre rubrique Heureux déconfiné, avec le conseil détente du week-end, de conseil signé Olivia Ferrandi. Aujourd'hui, Olivia, bonsoir, pour changer d'air, vous nous conseillez d'aller en forêt.
Bonsoir Pierre. Et oui, pour absorber le stress de la reprise, rien de tel en effet qu'une balade en forêt en ouvrant les yeux et en tendant l'oreille. Fin juin, le feuillage est dense, il tamise ainsi l'atmosphère, même en plein jour. Alors Sylvain Thomassin, guide en Meuse, vous recommande de vous diriger vers les lisières ou les puits de lumière. C'est là que la vie se concentre, pour les plantes comme pour les animaux.
Moi par exemple en ce moment, j'apprécie beaucoup les lisières plein sud, parce qu'on trouve justement ce qu'on appelle les plantes de la Saint-Jean. C'est des plantes médicinales, des bonnes herbes, comme disaient nos grands-mères, par exemple. Exemple, l'origan pour faire des tisanes. Vous allez trouver le millepertuis aussi pour soigner les brûlures. Et c'est dans les lisières que se concentrent les deux tiers des animaux qui vivent en forêt. Pour preuve, si vous balayez un petit peu comme ça le sol, vous verrez des fentes, c'est-à-dire des petits chemins qui ont été créés par les animaux qui se déplacent, par exemple des cerfs, des sangliers ou des campagnols roussâtres qui aiment bien habiter les lisières de forêt.
Et si vous regardez au pied des arbres cette fois, vous distinguerez de petits tas de graines. Ce sont les restes des repas des rongeurs.
Généralement, en fin d'hiver, les campagnols, les mulots ont fini de consommer leur grenier. Au printemps, ils font le grand ménage. On peut se rendre compte de ce qu'ils consomment. On va trouver des graines qui ont été rongées. Alors, les plus gros, ça va être des noisettes, ça va être des glands, mais on va trouver aussi des toutes petites graines de tilleul, par exemple.
Apercevoir tous ces animaux suppose un peu de patience et de stratégie.
On s'assoit dans un coin où on a une bonne vue, de préférence au coucher ou au lever du soleil. Quand il n'y a pas de vent, ni de pluie, et on va peut-être voir une belette, une hermine qui sort d'un fossé, un chevreuil. La nuit, par contre, là, on peut se promener un peu avec une lampe de poche. C'est comme ça qu'on pourra repérer des animaux qui vous regardent de manière un peu curieuse, avec leurs yeux phosphorescents. Alors, le petit truc, il faut tenir la lampe de poche à la hauteur de ses yeux. Et là, vous dirigez le faisceau dans la même direction que vos yeux, et vous verrez les yeux briller.
Allez, tendez l'oreille maintenant. Tiens, on entend à peine les oiseaux.
Fin juin, notamment, les oiseaux stèsent. Leur cycle de reproduction commence à s'achever. Certains sont de même déjà repartis en migration. C'est la période de la mue qui commence. Donc, on va entendre des chants beaucoup plus discrets. Par contre, on va pouvoir trouver des plumes. Par exemple, les plumes de buse, je les ramasse toujours pour faire des attrape-rêves.
Dans la forêt de Compiègne, c'est une autre musique qui va vous ensorceler. À partir de ce soir et jusqu'au 15 juillet, le Festival des forêts vous invite à écouter Bach, Purcell ou Rameau au cœur des bois. Une expérience sensorielle intense. Bruno Horry-Lavolé, le créateur de ce festival.
En fait, dès que vous approchez le musicien d'un arbre, l'arbre vibre avec lui et donc ça sonne différemment. Et on gagne en qualité d'écoute parce que quand nous sommes en forêt, nous redevenons le chasseur-cueilleur extrêmement attentif. Les oreilles dressées de la biche. Il nous est même arrivé un jour de proposer un concert à 4h30 du matin avec un quintet avant le concert impromptu. Et ça a été extraordinaire de vivre en musique en pleine forêt l'arrivée du jour.
Par petits groupes, vous suivrez ainsi les musiciens pour un bain musical de 3h au son de la flûte, de la clarinette ou du violon.
Et là, on va marcher environ 45 minutes à 1h et faire des pauses. Lors de ces pauses, il y a des exercices de respiration, de contact avec les arbres, et puis des moments d'écoute de la musique. Donc on a été immergé dans la forêt pendant 3h, mais on a aussi appris à l'écouter, à regarder, à la sentir, et l'écoute de la musique a résonné avec cette écoute de la nature.
Alors Pierre, si ces balades vous tentent, eh bien toutes les informations pratiques sont sur franceinter.fr.
C'est noté Olivier Ferrandi, Yann Arthus-Bertrand, l'émission est terminée en quelques secondes. La forêt quand même, partenaire indispensable.
Ce que je voulais dire, c'est que tout le monde peut participer à ce film citoyen. Voilà, on avait une participation collective sur Ulule. Vous pouvez aller sur Ulule et nous aider à faire ce film qui s'appelle Les 150. Et on peut être très fier de ce que font ces gens en ce moment dans ces réunions pour changer un peu le monde tel qu'il est. Voilà. Et en
merci.
Tout cas, je suis très très fier de faire ce film avec eux.
Merci Yann Arthus-Bertrand d'avoir été l'invité de France Inter ce soir. Merci beaucoup.